Chapitre 17. Le bruit d'une fusillade le tira brusquement de son sommeil. Et, malgré les instances de Rosanette, Frédéric à toute force voulut aller voir ce qui se passait. Il descendait vers les Champs-Élysées, d'où les coups de feu étaient partis. À l'angle de la rue Saint-Honoré, des hommes en blouse le croisèrent en criant « Non, non, pas par là! Au Palais Royal !» Frédéric les suivit. On avait arraché les grilles de l'Assomption. Plus loin, il remarqua trois pavés au milieu de la voie, le commencement d'une barricade, sans doute, puis des tessons de bouteilles et des paquets de fil de fer pour embarrasser la cavalerie. Quand, tout à coup, s'élança d'une ruelle un grand jeune homme pâle, dont les cheveux noirs flottaient sur les épaules, prise dans une espèce de maillot à pois de couleur. Il tenait un long fusil de soldat et courait sur la pointe de ses pantoufles avec l'air d'un somnambule et leste comme un tigre. On entendait par intervalle une détonation. La veille au soir, le spectacle du chariot contenant 5 cadavres recueillis parmi ceux du boulevard des Capucines avait changé les dispositions du peuple. Et pendant qu'aux Tuileries, les aides de camp se succédaient et que M. Mollet, en train de faire un cabinet nouveau, ne revenait pas et que M. Thiers tâchait d'en composer un autre et que le roi chicanait, hésitait, puis donnait à Bugeaud le commandement général pour l'empêcher de s'en servir, l'insurrection, comme dirigée par un seul bras, s'organisait formidablement. Des hommes d'une éloquence frénétique haranguaient la foule au coin des rues. D'autres, dans les églises, sonnaient le tocsin à pleine volée. On coulait du plomb, on roulait des cartouches. Les arbres des boulevards, les vespasiennes, les bancs, les grilles, les becs de gaz, tout fut arraché, renversé. Paris, le matin, était couvert de barricades. La résistance ne dura pas. Partout, la garde nationale s'interposait, si bien qu'à 8 heures, le peuple, de bon gré ou de force, possédait 5 casernes, presque toutes les mairies, les points stratégiques les plus sûrs. D'elle-même, sans secousse, la monarchie se fondait dans une dissolution rapide. Et on attaquait maintenant le poste du château d'eau pour délivrer 50 prisonniers qui n'y étaient pas. Frédéric s'arrêta forcément à l'entrée de la place. Des groupes en armes l'emplissaient. Des compagnies de la ligne occupaient les rues Saint-Thomas et Fromenteaux. Une barricade énorme bouchait la rue de Valois. La fumée, qui se balançait à sa crête, s'entr'ouvrit. Des hommes couraient dessus en faisant de grands gestes. Ils disparurent. Puis la fusillade recommença. Le poste y répondait sans qu'on vît personne à l'intérieur. Ses fenêtres, défendues par des volets de chêne, étaient percées de meurtrières. Et le monument, avec ses 2 étages, ses 2 ailes, sa fontaine au premier, sa petite porte au milieu, commençait à se moucheter de taches blanches sous le heurt des balles. Son perron de 3 marches restait vide. À côté de Frédéric, un homme en bonnet grec et portant une giberne par-dessus sa veste de tricot se disputait avec une femme coiffée d'un madras. Elle lui disait « Mais reviens donc, reviens donc !»« Laisse-moi tranquille !» répondait le mari. « Tu peux bien surveiller la loge toute seule. Citoyen, je vous le demande juste. J'ai fait mon devoir partout. Hein. 1830, en 32, en 34, en 39. Aujourd'hui, on se bat. Il faut que je me batte, les 20 ans. » Et la portière finit par céder à ses remontrances, et celle d'un garde national, près d'eux, quadragénaire, dont la figure bonasse était ornée d'un collier de barbe blonde. Il chargeait son arme et tirait, tout en conversant avec Frédéric, aussi tranquille au milieu de l'émeute, un horticulteur dans son jardin. Un jeune garçon en serpillière le cajolait pour obtenir des capsules afin d'utiliser son fusil, une belle carabine de chasse que lui avait donnée un monsieur. « Empoigne dans mon dos, dit le bourgeois, et efface-toi, tu vas te faire tuer. » Les tambours battaient la charge. Des cris aigus, des hurrahs de triomphe s'élevaient. Un remous continuel faisait osciller la multitude. Frédéric, pris entre deux masses profondes, ne bougeait pas, fasciné d'ailleurs et s'amusant extrêmement. Les blessés qui tombaient, les morts étendus, n'avaient pas l'air de vrais blessés, de vrais morts. Il lui semblait assister à un spectacle. Au milieu de la houle, par-dessus des têtes, on aperçut un vieillard en habit noir sur un cheval blanc à selle de velours. D'une main, il tenait un rameau vert, de l'autre un papier, et les secouait avec obstination. Enfin, désespérant de se faire entendre, il se retira. La troupe de ligne avait disparu, et les municipaux restaient seuls à défendre le poste. Un flot d'intrépides se rua sur le perron. Ils s'abattirent, d'autres survinrent, et la porte, ébranlée sous des coups de barre de fer, retentissait. Les municipaux ne cédaient pas. Mais une calèche bourrée de foin, et qui brûlait comme une torche géante, fut traînée contre les murs. On apporta vite des fagots, de la paille et un baril d'esprit de vin. Le feu monta le long des pierres, l'édifice se mit à fumer partout comme un solfatare, et de larges flammes au sommet, entre les balustres de la terrasse, s'échappaient avec un bruit strident. Le premier étage du palais royal s'était peuplé de gardes nationaux. De toutes les fenêtres de la place, on tirait, les balles sifflaient, l'eau de la fontaine crevée se mêlait avec le sang, faisait des flaques par terre, on glissait dans la boue sur des vêtements, des shakos, des armes. Frédéric sentit sous son pied quelque chose de mou. C'était la main d'un sergent en capote grise, couché la face dans le ruisseau. Des bandes nouvelles de peuple arrivaient toujours, poussant les combattants sur le poste. La fusillade devenait plus pressée. Les marchands de vin étaient ouverts, on allait de temps à autre y fumer une pipe, boire une chope, puis on retournait se battre. Un chien perdu hurlait. Cela faisait rire. Frédéric fut ébranlé par le choc d'un homme qui, une balle dans les reins, tomba sur son épaule en râlant. À ce coup, dirigé peut-être contre lui, il se sentit furieux et il se jetait en avant quand un garde national l'arrêta. « C'est inutile, le roi vient de partir. Ah, si vous ne me croyez pas, allez-y voir. » Une pareille assertion calma Frédéric. La place du Carrousel avait un aspect tranquille. L'hôtel de Nantes s'y dressait toujours solitairement, et les maisons par derrière, le dôme du Louvre en face, la longue galerie de bois à droite et le vague terrain qui ondulait jusqu'aux baraques des étalagistes, étaient comme noyés dans la couleur grise de l'air, où de lointains murmures semblaient se confondre avec la brume, tandis qu'à l'autre bout de la place, un jour cru, tombant par un écartement des nuages sur la façade des Tuileries, découpait en blancheur toutes ses fenêtres. Il y avait près de l'Arc de Triomphe un cheval mort étendu. Derrière les grilles, des groupes de 5 à 6 personnes causaient. Les portes du château étaient ouvertes, les domestiques, sur le seuil, laissaient entrer. En bas, dans une petite salle, des boîtes de café au lait étaient servies. Quelques-uns des curieux s'attablèrent en plaisantant. Les autres restaient debout, et parmi ceux-là un cocher de fiacre. Il saisit à deux mains un bocal plein de sucre en poudre, jeta un regard inquiet de droite et de gauche, puis se mit à manger voracement son nez plongeant dans le goulot. Au bas du grand escalier, un homme écrivait son nom sur un registre. Frédéric le reconnut par derrière. « Tiens, Hussonnet !»« Mais oui, » répondit le bohème. « Je m'introduis à la cour. Voilà une bonne farce, hein ?»« Si nous montions. » Et ils arrivèrent dans la salle des maréchaux. Les portraits de ces illustres, sauf celui de Bugeaud percé au ventre, étaient tous intacts. Ils se trouvaient appuyés sur leurs sabres, un affût de canon derrière eux, et dans des attitudes formidables, jurant avec la circonstance. Une grosse pendule marquait 1h20. Tout à coup, la Marseillaise retentit. Hussonnet et Frédéric se penchèrent sur la rampe. C'était le peuple. Il se précipita dans l'escalier, en secouant à flots vertigineux des têtes nues, des casques, des bonnets rouges, des baïonnettes et des épaules, si impétueusement que des gens disparaissaient dans cette masse grouillante qui montait toujours comme un fleuve refoulé par une mare d'équinoxe, avec un long mugissement sous une impulsion irrésistible. En haut, elle se répandit et le chant tomba. On n'entendait plus que les piétinements de tous les souliers avec le clapotement des voix. La foule inoffensive se contentait de regarder. Mais de temps à autre, un coude trop à l'étroit enfonçait une vitre ou bien un vase, une statuette, déroulait d'une consonne par terre. Les boiseries pressées craquaient. Tous les visages étaient rouges, la sueur en coulait à larges gouttes. Hussonnet fit cette remarque. « Les héros ne sentent pas bon. »« Ah, vous êtes agaçant, » reprit Frédéric. Et, poussés malgré eux, ils entrèrent dans un appartement où s'étendait au plafond un dais de velours rouge. Sur le trône, en dessous, était assis un prolétaire à barbe noire, la chemise entr'ouverte, l'air hilar et stupide comme un magot. D'autres gravissaient l'estrade pour s'asseoir à sa place. « Quel mythe !» dit Hussonnet. « Voilà le peuple souverain !» Le fauteuil fut enlevé à bout de bras et traversa toute la salle en se balançant. « Saprelotte, comme il chaloupe, le vaisseau de l'État est ballotté sur une mer orageuse. Qu'en canne-t-il ? » On l'avait approché d'une fenêtre et au milieu des sifflets, on le lança. « Pauvre vieux !» dit Hussonnet en le voyant tomber dans le jardin, où il fut repris vivement pour être promené ensuite jusqu'à la Bastille et brûlé. Alors, une joie frénétique éclata, comme si à la place du trône un avenir de bonheur illimité avait paru. Et le peuple, moins par vengeance que pour affirmer sa possession, brisa, lacéra les glaces et les rideaux, les lustres, les flambeaux, les tables, les chaises, les tabourets, tous les meubles, jusqu'à des albums de dessin, jusqu'à des corbeilles de tapisserie. Puisqu'on était victorieux, ne fallait-il pas s'amuser ? La canaille s'affubla ironiquement de dentelle et de cachemire. Des crépines d'or s'enroulèrent aux manches des blouses, des chapeaux à plumes d'autruche ornaient la tête des forgerons. Des rubans de la Légion d'honneur firent des ceintures aux prostituées. Chacun satisfaisait son caprice. Les uns dansaient, d'autres buvaient. Dans la chambre de la reine, une femme lustrait ses bandeaux avec de la pommade derrière un paravent. Deux amateurs jouaient aux cartes. Hussonnet montra à Frédéric un individu qui fumait son brûle-gueule accoudé sur un balcon. Et le délire redoublait au tintamarre continu des porcelaines brisées et des morceaux de cristal qui sonnaient en rebondissant comme des lames d'harmonica. Puis la fureur s'assombrit. Une curiosité obscène fit fouiller tous les cabinets, tous les recoins, ouvrir tous les tiroirs. Des galériens enfoncèrent leurs bras dans la couche des princesses et se roulaient dessus, par consolation de ne pouvoir les violer. D'autres, à figure plus sinistre, erraient silencieusement, cherchant à voler quelque chose. Mais la multitude était trop nombreuse. Par les baies des portes, on apercevait dans l'enfilade des appartements que la sombre masse du peuple, entre les dorures, sous un nuage de poussière, toutes les poitrines haletaient. La chaleur de plus en plus devenait suffocante. Les deux amis, craignant d'être étouffés, sortirent. Dans l'antichambre, debout sur un tas de vêtements, se tenait une fille publique en statue de la liberté, immobile, les yeux grands ouverts, effrayante. Ils avaient fait trois pas dehors quand un peloton de gardes municipaux en capote s'avança vers eux et qui, retirant leur bonnet de police et découvrant à la fois leur crâne un peu chauve, saluèrent le peuple très bas. À ce témoignage de respect, les vainqueurs déguenillés se rengorgèrent. Hucelet et Frédéric ne furent pas non plus sans en éprouver un certain plaisir. Une ardeur les animait. Ils s'en retournèrent au palais royal. Devant la rue Fromenteau, des cadavres de soldats étaient entassés sur de la paille. Ils passèrent auprès impassiblement, étant même fiers de sentir qu'ils faisaient bonne contenance. Le palais regorgeait de monde. Dans la cour intérieure, 7 bûchers flambaient. On lançait par les fenêtres des pianos, des commodes et des pendules. Des pompes à incendie crachaient de l'eau jusqu'au toit. Des chenapans tâchaient de couper les tuyaux avec leurs sabres. Frédéric engagea un polytechnicien à s'interposer. Le polytechnicien ne comprit pas, semblait imbécile d'ailleurs. Tout autour, dans les deux galeries, la populace, maîtresse des caves, se livrait à une horrible godaille. Le vin coulait en ruisseaux, mouillait les pieds, les voyous buvaient dans les culs de bouteille et vociféraient en titubant. « Oh, sortons de là, » dit Hucelet, « ce peuple me dégoûte. » Tout le long de la galerie d'Orléans, des blessés gisaient par terre sur des matelas, ayant pour couverture des rideaux de pourpre. Et de petites bourgeoises du quartier leur apportaient des bouillons, du linge. Oh, « N'importe, » dit Frédéric, « moi, je trouve le peuple sublime. » Le grand vestibule était rempli par un tourbillon de gens furieux. Des hommes voulaient monter aux étages supérieurs pour achever de détruire tout. Des gardes nationaux, sur les marches, s'efforçaient de les retenir. Le plus intrépide était un chasseur, nu-tête, la chevelure hérissée, les buffleteries en pièces. Sa chemise faisait un bourrelet entre son pantalon et son habit, et il se débattait au milieu des autres avec acharnement. Hucelet, qui avait la vue perçante, reconnut de loin Arnoux. Puis ils gagnèrent le jardin des Tuileries pour respirer plus à l'aise. Ils s'assirent sur un banc, et ils restèrent pendant quelques minutes, les paupières closes, tellement étourdis qu'ils n'avaient pas la force de parler. Les passants autour d'eux s'abordaient. La duchesse d'Orléans était nommée régente. Tout était fini, et on éprouvait cette sorte de bien-être qui suit les dénouements rapides, quand à chacune des mansardes du château parurent des domestiques déchirant leurs habits de livrée. Ils les jetaient dans le jardin en signe d'abjuration. Le peuple les hua, ils se retirèrent. L'attention de Frédéric et du Sonnet fut distraite par un grand gaillard qui marchait vivement entre les arbres avec un fusil sur l'épaule. Une cartouche lui serrait à la taille sa vareuse rouge, un mouchoir s'enroulait à son front sous sa casquette. Il tourna la tête, c'était du Sardier. Et, se jetant dans leurs bras, « Ah, oh, quel bonheur, mes pauvres vieux !» sans pouvoir dire autre chose, tant il haletait de joie et de fatigue. Depuis 48 heures, il était debout. Il avait travaillé aux barricades du quartier latin, s'était battu rue Rambuteau, avait sauvé 3 dragons, était entré aux Tuileries avec la colonne du Noyer, s'était porté ensuite à la Chaubrand, puis à l'hôtel de ville. Oh, j'en arrive, tout va bien, le peuple triomphe, les ouvriers et les bourgeois s'embrassent. Ah, si vous saviez ce que j'ai vu, quels braves gens, comme c'est beau! Et, sans s'apercevoir que nous n'avions pas d'armes, oh, j'étais bien sûr de vous trouver là, ça a été rude, un moment, n'importe. Une goutte de sang lui coulait sur la joue, et aux questions des deux autres, « Oh, rien, le raflure d'une baïonnette !»« Il faudrait vous soigner, pourtant. »« Bon, je suis solide. Qu'est-ce que ça fait? La République est proclamée. Ben, on sera heureux, maintenant !» Des journalistes qui causaient tout à l'heure devant moi disait qu'on va affranchir la Pologne et l'Italie. Plus de rois, comprenez-vous? Toute la terre libre, toute la terre libre! Et embrassant l'horizon d'un seul regard, il écarta les bras dans une attitude triomphante. Mais une longue file d'hommes courait sur la terrasse au bord de l'eau. Oh, ça prenait que j'oubliais. Les forts sont occupés. Il faut que j'y aille, et adieu! Il se retourna pour leur crier, tout en brandissant son fusil, « Vive la République !» Des cheminées du château, il s'échappait d'énormes tourbillons de fumée noire qui emportaient des étincelles. La sonnerie des cloches faisait au loin comme des bêlements effarés. De droite et de gauche, partout, les vainqueurs déchargeaient leurs armes. Frédéric, bien qu'il ne fût pas guerrier, sentit bondir son sang gaulois. Le magnétisme des foules enthousiastes l'avait pris. Il humait voluptueusement l'air orageux, plein des senteurs de la poudre, et cependant il frissonnait sous les effluves d'un immense amour, d'un attendrissement suprême et universel, comme si le cœur de l'humanité tout entière avait battu dans sa poitrine. Hussonnet dit, en bâillant, « Oh, il serait temps peut-être d'aller instruire les populations. » Frédéric le suivit à son bureau de correspondance, place de la Bourse. Et il se mit à composer pour le journal de Troyes un compte-rendu des événements en style lyrique, un véritable morceau qu'il signa. Puis ils dînèrent ensemble dans une taverne. Hussonnet était pensif. Les excentricités de la Révolution dépassaient les siennes. Après le café, quand ils se rendirent à l'hôtel de ville pour savoir du nouveau, son naturel gamin avait repris le dessus. Il escaladait les barricades comme un chamois et répondait aux sentinelles des gaudrioles patriotiques. Ils entendirent à la lueur des torches proclamer le gouvernement provisoire. Enfin, à minuit, Frédéric, brisé de fatigue, regagna sa maison. « Eh bien, dit-il à son domestique en train de le déshabiller, es-tu content ?»« Oh oui, sans doute, monsieur, mais ce que j'aime pas, c'est ce peuple en cadence. » Le lendemain, à son réveil, Frédéric pensa à Deslauriers. Il courut chez lui. L'avocat venait de partir, étant nommé commissaire en province. Dans la soirée de la veille, il était parvenu jusqu'à Ledru-Rollin et, l'obsédant au nom des écoles, en avait arraché une place, une mission. Du reste, disait le portier, il devait écrire la semaine prochaine pour donner son adresse. Après quoi, Frédéric s'en alla voir la maréchale. Elle le reçut aigrement car elle lui en voulait de son abandon. Sa rancune s'évanouit sous des assurances de paix réitérées. Tout était tranquille maintenant, aucune raison d'avoir peur. Il l'embrassait. Et elle se déclara pour la République, comme avait déjà fait Monseigneur l'archevêque de Paris, et comme devait faire avec une prestesse de zèle merveilleuse la magistrature, le Conseil d'État, l'Institut, les maréchaux de France, Jean Garnier, M. de Falloux, tous les bonapartistes, tous les légitimistes et un nombre considérable d'orléanistes. La chute de la monarchie avait été si prompte que la première stupéfaction passée, il y eut chez les bourgeois comme un étonnement de vivre encore. L'exécution sommaire de quelques voleurs fusillés sans jugement parut une chose très juste. On se redit pendant un mois la phrase de Lamartine sur le drapeau rouge, qui n'avait fait que le tour du Champ de Mars, tandis que le drapeau tricolore, etc. Et tous se rangèrent sous son ombre, chaque parti ne voyant des trois couleurs que la sienne, et se promettant bien, dès qu'il serait le plus fort, d'arracher les deux autres. Comme les affaires étaient suspendues, l'inquiétude et la badauderie poussaient tout le monde hors de chez soi. Le négligé des costumes atténuait la différence des rangs sociaux. La haine se cachait, les espérances s'étalaient, la foule était pleine de douceur. L'orgueil d'un droit conquis éclatait sur les visages. On avait une gaieté de carnaval, des allures de bivac. Rien ne fut amusant comme l'aspect de Paris les premiers jours. Frédéric prenait la maréchale à son bras, et ils flânaient ensemble dans les rues. Elle se divertissait des rosettes décorant toutes les boutonnières, des étendards suspendus à toutes les fenêtres, des affiches de toutes couleurs placardées contre les murailles, et jetait ça et là quelques monnaies dans le tronc pour les blessés, établis sur une chaise au milieu de la voie. Puis elle s'arrêtait devant des caricatures qui représentaient Louis-Philippe en pâtissier, en saltimbanque, en chien, en sangsue. Mais les hommes de Caussidière, avec leurs sabres et leurs écharpes, l'effrayaient un peu. D'autres fois, c'était un arbre de la liberté qu'on plantait. Messieurs les ecclésiastiques concouraient à la cérémonie, bénissant la République, escortés par des serviteurs à galons d'or, et la multitude trouvait cela très bien. Le spectacle le plus fréquent était celui des députations de n'importe quoi allant réclamer quelque chose à l'hôtel de ville, car chaque métier, chaque industrie attendait du gouvernement l'affaire radicale de sa misère. Quelques-uns, il est vrai, se rendaient près de lui pour le conseiller ou le féliciter, ou tout simplement pour lui faire une petite visite et voir fonctionner la machine. Vers le milieu du mois de mars, un jour qu'il traversait le pont d'Arcole ayant à faire une commission pour Rosanette dans le quartier latin, Frédéric vit s'avancer une colonne d'individus à chapeau bizarre, à longue barbe. En tête et battant du tambour, marchait un nègre, un ancien modèle d'atelier, et l'homme qui portait la bannière, sur laquelle flottait au vent cette inscription « artiste peintre » n'était autre que Pellerin. Il fit signe à Frédéric de l'attendre, puis reparut 5 minutes après, ayant du temps devant lui, car le gouvernement recevait à ce moment-là les tailleurs de pierre. il allait avec ses collègues réclamer la création d'un forum de l'art, une espèce de bourse où l'on débattrait les intérêts de l'esthétique. Des œuvres sublimes se produiraient puisque les travailleurs mettraient en commun leur génie. Paris, bientôt, serait couvert de monuments gigantesques, il les décorerait. Il avait même commencé une figure de la République. Un de ses camarades vint le prendre, car ils étaient talonnés par la députation du commerce de la volaille. « Quelle bêtise !» grommela une voix dans la foule. « Toujours des blagues, rien de fort !» C'était Regimbard. Il ne salua pas Frédéric, mais profita de l'occasion pour épandre son amertume. Le citoyen employait ses jours à vagabonder dans les rues, tirant sa moustache, roulant des yeux, acceptant et propageant des nouvelles lugubres, et il n'avait que deux phrases. « Prenez garde, nous allons être débordés !» ou bien « Mais, sacrebleu, on escamote la République !» Il était mécontent de tout, et particulièrement de ce que nous n'avions pas repris nos frontières naturelles. Le nom seul de Lamartine lui faisait hausser les épaules. Il ne trouvait pas le Drurolin suffisant pour le problème. Traita Dupont de l'heure de vieille ganache, Albert Didiot, Louis Blanc d'utopiste, blanqui d'homme extrêmement dangereux. Et quand Frédéric lui demanda ce qu'il aurait fallu faire, il répondit en lui serrant le bras à le broyer « Prendre le Rhin, je vous dis, prendre le Rhin, fichtre !» Puis il accusa la réaction. Elle se démasquait. Le sac des châteaux de Neuilly et de Suresnes, l'incendie des Batignolles, les tours de Lyon, tous les excès, tous les griefs, on les exagérait à présent, en y ajoutant la circulaire de Ledru-Rollin, le cours forcé des billets de banque, la rente tombée à 60 francs, enfin, comme iniquité suprême, comme dernier coup, comme surcroît d'horreur, l'impôt des 45 centimes. Et par-dessus tout cela, il y avait encore le socialisme. Bien que ces théories aussi neuves que le jeu doit eussent été depuis 40 ans suffisamment débattues pour remplir des bibliothèques, elles épouvantèrent les bourgeois comme une grêle d'aérolithes. Et on fut indigné en vertu de cette haine que provoque l'avènement de toute idée parce que c'est une idée, exécration dont elle tire plus tard sa gloire, et qui fait que ses ennemis sont toujours au-dessous d'elle, si médiocre qu'elle puisse être. Alors la propriété monta dans les respects au niveau de la religion et se confondit avec Dieu. Les attaques qu'on lui portait parurent du sacrilège, presque de l'anthropophagie. Malgré la législation la plus humaine qui fût jamais, le spectre de 93 reparut, et le couperet de la guillotine vibra dans toutes les syllabes du mot république, ce qui n'empêchait pas qu'on la méprisait pour sa faiblesse. La France, ne sentant plus de maître, se mit à crier d'effarement comme un aveugle sans bâton, comme un marmot qui a perdu sa bonne. De tous les Français, celui qui tremblait le plus fort était M. d'Ambreuse. L'état nouveau des choses menaçait sa fortune, mais surtout dupait son expérience. Un système si bon, un roi si sage, mais est-ce possible? La terre allait crouler. Dès le lendemain, il congédia 3 domestiques, vendit ses chevaux, s'acheta pour sortir dans les rues un chapeau mou, pensa même à laisser croître sa barbe. Et il restait chez lui, prostré, se repaissant amèrement des journaux les plus hostiles à ses idées, et devenu tellement sombre que les plaisanteries sur la pipe de Flocon n'avaient pas même la force de le faire sourire. Comme soutien du dernier règne, il redoutait les vengeances du peuple sur ses propriétés de la Champagne, quand l'élucubration de Frédéric lui tomba dans les mains. Alors il s'imagina que son jeune ami était un personnage très influent et qu'il pourrait, sinon le servir, du moins le défendre. De sorte qu'un matin, M. d'Ambreuse se présenta chez lui, accompagné de Martinon. Cette visite n'avait pour but, dit-il, que de le voir un peu et de causer. Somme toute, il se réjouissait des événements et il adoptait de grand cœur notre sublime devise « Liberté, égalité, fraternité », ayant toujours été républicain, au fond. S'il votait sous l'autre régime avec le ministère, c'était simplement pour accélérer une chute inévitable. Il s'emporta même contre M. Guizot, qui nous a mis dans un joli pétrin, convenons-en. En revanche, il admirait beaucoup Lamartine, lequel s'était montré magnifique, ma parole d'honneur, quand, à propos du drapeau rouge, « Oui, je sais, » dit Frédéric. Après quoi, il déclara sa sympathie pour les ouvriers. « Car enfin, plus ou moins, nous sommes tous ouvriers. » Et il poussait l'impartialité jusqu'à reconnaître que Proudhon avait de la logique. « Oh, beaucoup de logique, diable !» Puis, avec le détachement d'une intelligence supérieure, il causa de l'expédition de peinture où il avait vu le tableau de Pellerin. Il trouvait cela original, bien touché. Martinon appuyait tous ces mots par des remarques approbatives. Lui aussi pensait qu'il fallait se rallier franchement à la République, et il parla de son père laboureur, faisant le paysan, l'homme du peuple. On arriva bientôt aux élections pour l'Assemblée nationale et aux candidats dans l'arrondissement de la Fortelle. Celui de l'opposition n'avait pas de chance. « Mais vous devriez prendre sa place, » dit M. d'Ambreuse. Frédéric se récria. « Et pourquoi donc ? Car il obtiendrait les suffrages des ultras, vu ses opinions personnelles. Celui des conservateurs ?» à cause de sa famille. Et peut-être aussi, ajouta le banquier en souriant, grâce un peu à mon influence. Frédéric objecta qu'il ne saurait comment s'y prendre. Rien de plus facile, en se faisant recommander aux patriotes de l'Aube par un club de la capitale. Il s'agissait de lire, non une profession de foi, comme on en voyait quotidiennement, mais une exposition de principes sérieuses. Apportez-moi cela, c'est ce qui convient dans la localité. Et vous pourriez, je vous le répète, rendre de grands services au pays, à nous tous, à moi-même. Par des temps pareils, on devait s'entraider, et si Frédéric avait besoin de quelque chose, lui ou ses amis. Oh, mille grâces, cher monsieur, à charge de revanche, bien entendu. Le banquier était un brave homme, décidément. Frédéric ne put s'empêcher de réfléchir à son conseil, et bientôt une sorte de vertige l'éblouit. Les grandes figures de la Convention passèrent devant ses yeux. Il lui sembla qu'une aurore magnifique allait se lever. Rome, Vienne, Berlin étaient en insurrection, les Autrichiens chassés de Venise, toute l'Europe s'agitait. C'était l'heure de se précipiter dans le mouvement, de l'accélérer peut-être. Et puis il était séduit par le costume que les députés, disait-on, porteraient. Déjà, il se voyait en gilet à revers avec une ceinture tricolore, et ce prurite, cette hallucination, devint si forte qu'il s'en ouvrit à du sardier. L'enthousiasme du brave garçon ne faiblissait pas. Certainement, bien sûr, mais présentez-vous. Frédéric, néanmoins, consulta Delaurier. L'opposition idiote qui entravait le commissaire dans sa province avait augmenté son libéralisme. Il lui envoya immédiatement des exhortations violentes. Cependant, Frédéric avait besoin d'être approuvé par un plus grand nombre, et il confia la chose à Rosanette un jour que Mademoiselle Vatenas se trouvait là. Elle était une de ces célibataires parisiennes qui, chaque soir, quand elles ont donné leurs leçons, ou tâché de vendre de petits dessins, de placer de pauvres manuscrits, rentrent chez elles avec de la crotte à leurs jupons, font leur dîner et mangent toutes seules, puis les pieds sur une chaufferette à la lueur d'une lampe malpropre, rêvent un amour, une famille, un foyer, la fortune, tout ce qui leur manque. Aussi, comme beaucoup d'autres, avait-elle salué dans la Révolution l'avènement de la vengeance, et elle se livrait à une propagande socialiste effrénée. L'affranchissement du prolétaire, selon la Vatenas, n'était possible que par l'affranchissement de la femme. Elle voulait son admissibilité à tous les emplois, la recherche de la paternité, un autre code, l'abolition, ou tout au moins une réglementation du mariage plus intelligente. Alors, chaque Française serait tenue d'épouser un Français ou d'adopter un vieillard. Il fallait que les nourrices et les accoucheuses fussent des fonctionnaires salariés par l'État, qu'il y eût un jury pour examiner les œuvres de femmes, des éditeurs spéciaux pour les femmes, une école polytechnique pour les femmes, une garde nationale pour les femmes, tout pour les femmes. Et puisque le gouvernement méconnaissait leurs droits, elle devait vaincre la force par la force. 10 000 citoyennes avec de bons fusils pouvaient faire trembler l'hôtel de ville. La candidature de Frédéric lui parut favorable à ses idées. Elle l'encouragea en lui montrant la gloire à l'horizon. Rosanette se réjouit d'avoir un homme qui parlerait à la chambre. Et puis, on te donnera peut-être une bonne place. Frédéric, homme de toutes les faiblesses, fut gagné par la démence universelle. Il écrivit un discours et alla le faire voir à M. d'Ambreuse. Au bruit de la grande porte qui retombait, un rideau s'entr'ouvrit derrière une croisée. Une femme y parut. Il n'eut pas le temps de la reconnaître, mais dans l'antichambre, un tableau l'arrêta, le tableau de Pellerin posé sur une chaise, provisoirement, sans doute. Cela représentait la République, ou le progrès, ou la civilisation, sous la figure de Jésus-Christ, conduisant une locomotive, laquelle traversait une forêt vierge. Frédéric, après une minute de contemplation, s'écria « Quelle turpitude !»« N'est-ce pas, hein ?» dit M. d'Ambreuse, survenu sur cette parole, et s'imaginant qu'elle concernait non la peinture, mais la doctrine glorifiée par le tableau. Martinon arriva au même moment. Ils passèrent dans le cabinet. Et Frédéric tirait un papier de sa poche quand Mademoiselle Cécile, entrant tout à coup, articula d'un air ingénu « Ma tante est-elle ici ?»« Tu sais bien que non, » répliqua le banquier. « N'importe, faites comme chez vous, mademoiselle. »« Oh, merci, je m'en vais. » À peine sorti, Martinon eut l'air de chercher son mouchoir. Oh, je l'ai oublié dans mon paletot, excusez-moi. Bien, dit M. d'Ambreuse, évidemment, il n'était pas dupe de cette manœuvre, et même semblait la favoriser. Pourquoi ? Mais bientôt Martinon reparut, et Frédéric entama son discours. Dès la seconde page, qui signalait comme une honte la prépondérance des intérêts pécuniaires, le banquier fit la grimace. Puis, abordant les réformes, Frédéric demandait la liberté du commerce. Comment, me permettez? L'autre n'entendait pas et continua. Il réclamait l'impôt sur la rente, l'impôt progressif, une fédération européenne et l'instruction du peuple, des encouragements aux beaux-arts les plus larges. Quand le pays fournirait à des hommes comme Delacroix ou Hugo 100 000 francs de rente, vous serez le mal. Le tout finissait par des conseils aux classes supérieures. N'épargnez rien aux riches, donnez, donnez. Il s'arrêta et resta debout. Ses deux auditeurs assis ne parlaient pas. Martinon écarquillait les yeux. M. d'Ambreuse était tout pâle. Enfin, dissimulant son émotion sous un aigre sourire, « Oh, c'est parfait, votre discours !» Et il en vanta beaucoup la forme pour n'avoir pas à s'exprimer sur le fond. Cette virulence de la part d'un jeune homme inoffensif l'effrayait, surtout comme symptôme. Martinon tâcha de le rassurer. Le parti conservateur, d'ici peu, prendrait sa revanche, certainement. Dans plusieurs villes, on avait chassé les commissaires du gouvernement provisoire. Les élections n'étaient fixées qu'au 23 avril. On avait du temps. Bref, il fallait que M. d'Ambreuse lui-même se présentât dans l'aube. Et dès lors, Martinon ne le quitta plus, devint son secrétaire, et l'entoura de soins filiaux. Frédéric arriva fort content de sa personne chez Rosanette. Delmar y était, et lui apprit que, définitivement, il se portait comme candidat aux élections de la Seine. Dans une affiche, adressée au peuple, et où il le tutoyait, l'acteur se vantait de le comprendre, lui, et des être faits pour son salut. Crucifié par l'art, si bien qu'il était son incarnation, son idéal, croyant effectivement avoir sur les masses une influence énorme, jusqu'à proposer plus tard dans un bureau le ministère de réduire une émeute à lui seul. Et quant aux moyens qu'il l'emploierait, il fit cette réponse. N'ayez pas peur, je leur montrerai ma tête. Frédéric, pour le mortifier, lui notifia sa propre candidature. Le cabotin, du moment que son futur collègue visait la province, se déclara son serviteur et offrit de le piloter dans les clubs. Ils les visitèrent tous, ou presque tous, les rouges et les bleus, les furibonds et les tranquilles, les puritains et les débraillés, les mystiques et les pochards, ceux où l'on décrétait la mort des rois, ceux où l'on dénonçait les fraudes de l'épicerie, et partout les locataires maudissaient les propriétaires, la blouse s'en prenait à l'habit, et les riches conspiraient contre les pauvres. Plusieurs voulaient des indemnités comme anciens martyrs de la police. D'autres imploraient de l'argent pour mettre en jeu des inventions, ou bien c'étaient des plans de phalanstères, des projets de bazars cantonaux, des systèmes de félicité publique. Puis, ça et là, un éclair d'esprit dans ces nuages de sottises, des apostrophes soudaines comme des éclaboussures, le droit formulé par un juron et des fleurs d'éloquence aux lèvres d'un goujat, portant à cru le baudrier d'un sabre sur sa poitrine sans chemise. Quelquefois aussi figurait un monsieur, aristocrate, humble d'allure, disant des choses plébéiennes et qui ne s'était pas lavé les mains pour les faire paraître calleuses. Un patriote le reconnaissait, les plus vertueux le houspillaient et il sortait la rage dans l'âme. On devait, par affectation de bon sens, dénigrer toujours les avocats et servir le plus souvent possible ses locutions, apporter sa pierre à l'édifice, problème social, atelier. Delmar ne ratait pas les occasions d'empoigner le peuple, et quand il ne trouvait plus rien à dire, sa ressource était de se camper le poing sur la hanche, l'autre bras dans le gilet, en se tournant de profil brusquement, de manière à bien montrer sa tête. Alors des applaudissements éclataient, ceux de Mademoiselle Vatnaz au fond de la salle. Frédéric, malgré la faiblesse des orateurs, n'osait se risquer. Tous ces gens lui semblaient trop incultes ou trop hostiles. Mais Dussardier se mit en recherche et lui annonça qu'il existait rue Saint-Jacques un club intitulé le Club de l'Intelligence. Un nom pareil donnait bon espoir. D'ailleurs, il amènerait des amis. Il amena ce qu'il avait invité à son punch. Le terreur de livres, le placeur de vin, l'architecte. Pellerin même était venu, peut-être qu'Hussonnet allait venir. Et sur le trottoir devant la porte, stationnait Regimbard, avec deux individus, dont le premier était son fidèle compain, homme un peu courtaud, marqué de petites véroles, les yeux rouges, et le second, une espèce de singe nègre, extrêmement chevelu, et qu'il connaissait seulement pour être un patriote de Barcelone. Ils passèrent par une allée, puis furent introduits dans une grande pièce, à usage de menuisier sans doute, et dont les murs encore neufs sentaient le plâtre. Quatre quinquets, accrochés parallèlement, y faisaient une lumière désagréable. Sur une estrade, au fond, il y avait un bureau avec une sonnette, en dessous une table figurant la tribune, et de chaque côté deux autres plus basses pour les secrétaires. L'auditoire qui garnissait les bancs était composé de vieux rapins, de pions, d'hommes de lettres inédits. Sur ces lignes de paletots à collet gras, on voyait de place en place le bonnet d'une femme ou le bourgeron d'un ouvrier. Le fond de la salle était même plein d'ouvriers, venus là sans doute par désœuvrement ou qu'avaient introduit des orateurs pour se faire applaudir. Frédéric eut soin de se mettre entre Dussardier et Regimbard qui, à peine assis, posa ses deux mains sur sa canne, son menton sur ses deux mains et ferma les paupières, tandis qu'à l'autre extrémité de la salle, Delmar, debout, dominait l'assemblée. Au bureau du président, Sénécal parut. Cette surprise, avait pensé le bon commis, plairait à Frédéric. Elle le contraria. La foule témoignait à son président une grande déférence. Il était de ceux qui, le 25 février, avaient voulu l'organisation immédiate du travail. Le lendemain, au Prado, il s'était prononcé pour qu'on attaquât l'hôtel de ville, et comme chaque personnage se réglait alors sur un modèle, l'un copiant Saint-Just, l'autre Danton, l'autre Marat, lui, il tâchait de ressembler à Blanqui, lequel imitait Robespierre. Ses gants noirs et ses cheveux en brosse lui donnaient un aspect rigide, mais extrêmement convenable. Il ouvrit la séance par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, acte de foi habituel. Puis, une voix vigoureuse entonna les souvenirs du peuple de Béranger. D'autres voix s'élevèrent. « Non, 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 pas ça !»« La casquette !» se mirent à hurler au fond les patriotes. Et ils chantèrent en chœur la poésie du jour. « Chapeau bas devant ma casquette, à genoux devant l'ouvrier !» Sur un mot du président, l'auditoire se tut. Un des secrétaires procéda au dépouillement des lettres. Des jeunes gens annoncent qu'ils brûlent chaque soir devant le Panthéon un numéro de l'Assemblée nationale. Et ils engagent tous les patriotes à suivre leur exemple. « Bravo, adopté !» répondit la foule. Le citoyen Jean-Jacques Langreneux, typographe rue Dauphine, voudrait qu'on élevât un monument à la mémoire des martyrs de Thermidor. Michel Évariste des Pomucène Vincent, ex-professeur, émet le vœu que la démocratie européenne adopte l'unité de langage. On pourrait se servir d'une langue morte, comme par exemple du latin, perfectionné. « Oh non, pas de latin !» s'écria l'architecte. « Mais pourquoi ?» reprit un maître d'études. Et ces deux messieurs engagèrent une discussion où d'autres se mêlèrent, chacun jetant son mot pour éblouir et qui ne tarda pas à devenir tellement fastidieuse que beaucoup s'en allaient. Mais un petit vieillard, portant au bas de son front prodigieusement haut des lunettes vertes, réclama la parole pour une communication urgente. C'était un mémoire sur la répartition des impôts. Les chiffres découlaient, cela n'en finissait plus. L'impatience éclata d'abord en murmures, en conversations. Rien ne le troublait. Puis on se mit à siffler. On l'appelait Azor. Sénécal gourmanda le public. L'orateur continuait comme une machine. Il fallut pour l'arrêter le prendre par le coude. Oh, le bonhomme eut l'air de sortir d'un songe et levant tranquillement ses lunettes. « Oh, pardon, oh, citoyen, pardon, je me retire, mille excuses. » L'insuccès de cette lecture déconcerta Frédéric. Il avait son discours dans sa poche, mais une improvisation lui valut. Enfin, le président annonça qu'ils allaient passer à l'affaire importante, la question électorale. On ne discuterait pas les grandes listes républicaines. Cependant, le club de l'intelligence avait bien le droit comme un autre d'en former une, n'en déplaise à messieurs les pachas de l'hôtel de ville, et les citoyens qui briguaient le mandat populaire pouvaient exposer leur titre. « Allez-y donc !» dit Dussardier. Un homme en soutane, crépus et de physionomie pétulante, avait déjà levé la main. Il déclara en bredouillant, s'appelait Ducreteau, prêtre et agronome, auteur d'un ouvrage intitulé « Des engrais ». On le renvoya vers un cercle horticole. Puis un patriote en blouse gravit la tribune. Celui-là était un plébéien, large d'épaule, une grosse figure très douce et de longs cheveux noirs. Il parcourut l'assemblée d'un regard presque voluptueux, se renversa la tête et, enfin, écartant les bras. « Vous avez repoussé Ducreteau, oh, mes frères, et vous avez bien fait. Mais ce n'est pas par irreligion, car nous sommes tous religieux. » Plusieurs écoutaient la bouche ouverte avec des airs de catéchumène, de pose extatique. « Ce n'est pas non plus parce qu'il est prêtre, car nous aussi nous sommes prêtres. L'ouvrier est prêtre, comme l'était le fondateur du socialisme, notre maître à tous, Jésus-Christ. » Le moment était venu d'inaugurer le règne de Dieu. L'évangile conduisait tout droit à 89. Après l'abolition de l'esclavage, l'abolition du prolétariat. On avait eu l'âge de haine. Allait commencer l'âge d'amour. Le christianisme est la clé de voûte et le fondement de l'édifice nouveau. Vous fichez-vous de nous, s'écria le placeur d'alcool. « Qu'est-ce qui m'a donné un calotin pareil ?» Cette interruption causa un grand scandale. Presque tous montèrent sur les bancs et le poing tendu vociférait « Athée, aristocrate, canaille !» pendant que la sonnette du président tintait sans discontinuer et que les cris « à l'ordre !» redoublaient. Mais intrépide et soutenu d'ailleurs par trois cafés pris avant de venir, il se débattait au milieu des autres. « Comment moi, un aristocrate ? Allons donc !» Admis enfin à s'expliquer, il déclara qu'on ne serait jamais tranquille avec les prêtres. Et puisqu'on avait parlé tout à l'heure d'économie, c'en serait une fameuse que de supprimer les églises, les Saint-Ciboire et finalement tous les cultes. Quelqu'un lui objecta qu'il allait loin. « Oui, je vais loin, mais quand un vaisseau est surpris par la tempête... » Sans attendre la fin de la comparaison, un autre lui répondit « D'accord, mais c'est démolir d'un seul coup, comme un maçon sans discernement. » « Vous insultez les maçons ?» hurla un citoyen couvert de plâtre. Et, s'obstinant à croire qu'on l'avait provoqué, il vomit des injures, voulait se battre, se cramponnait à son banc. Trois hommes ne furent pas de trop pour le mettre dehors. Cependant, l'ouvrier se tenait toujours à la tribune. Les deux secrétaires l'avertirent d'en descendre. Il protesta contre le passe-droit qu'on lui faisait. « Vous ne m'empêcherez pas de crier « Amour éternel » à notre chère France, « Amour éternel » aussi à la République. »« Citoyen, » dit alors Compin, « citoyen !» Et à force de répéter « citoyen », ayant obtenu un peu de silence, il appuya sur la tribune ses deux mains rouges, pareilles à des moignons, se porta le corps en avant, et clignant des yeux, « Je crois qu'il vaudrait donner une plus large extension à la tête de veau. » Tous se taisaient, croyant avoir mal entendu. « Oui, la tête de veau !» 300 rires éclatèrent d'un seul coup. Le plafond trembla. Devant toutes ces faces bouleversées par la joie, Compin se reculait. Il reprit d'un ton furieux « Comment ? Vous ne connaissez pas la tête de veau ?» Ce fut un paroxysme, un délire. On se pressait les côtes. Quelques-uns même tombaient par terre, sous les bancs. Compin n'y tenant plus, se réfugia près de Regimbard et il voulait l'entraîner. « Oh non, 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 je reste jusqu'au bout !» dit le citoyen. Cette réponse détermina Frédéric, et comme il cherchait de droite et de gauche ses amis pour le soutenir, il aperçut devant lui Pellerin à la tribune. L'artiste le prit de haut avec la foule. « Je voudrais savoir un peu où est le candidat de l'art dans tout cela. Moi, j'ai fait un tableau. »« Oh, nous n'avons qu'à faire des tableaux !» dit brutalement un homme maigre ayant des plaques rouges aux pommettes. Pellerin se récria qu'on l'interrompait. Mais l'autre, d'un ton tragique, « Est-ce que le gouvernement n'aurait pas dû déjà abolir par un décret la prostitution et la misère ?» Et cette parole lui ayant livré tout de suite la faveur du peuple, il tonna contre la corruption des grandes villes. « Honte et infamie, on devrait happer les bourgeois !» au sortir de la maison d'or et leur cracher à la figure. Au moins, si le gouvernement ne favorisait pas la débauche, mais les employés de l'octroi sont envers nos filles et nos sœurs d'une indécence. » Une voix proféra de loin. « C'est rigolo ! À la porte ! On tire de nous des contributions pour solder le libertinage. Ainsi les forts appointements d'acteurs « À moi !» s'écria l'Elbar. Il bondit dans la tribune, écarta tout le monde, prit sa pose. et déclarant qu'il méprisait d'aussi plates accusations, s'étendit sur la mission civilisatrice du comédien. Puisque le théâtre était le foyer de l'instruction nationale, il votait pour la réforme du théâtre. Et d'abord, plus de direction, plus de privilèges. Oui, d'aucune sorte. Le jeu de l'acteur échauffait la multitude et des notions subversives se croisaient. Plus d'académie, plus d'institut, oh, plus de mission, plus de baccalauréat, ah bas les grades universitaires. Oh, conservons-les, dit Sénécal, mais qu'ils soient conférés par le suffrage universel, par le peuple, seul vrai juge. Le plus utile d'ailleurs n'était pas cela. Il fallait d'abord passer le niveau sur la tête des riches. Et il les représenta, se gorgeant de crimes sous leur plafond doré, tandis que les pauvres, se tordant de faim dans leur galta, cultivaient toutes les vertus. Les applaudissements devinrent si forts qu'il s'interrompit. Pendant quelques minutes, il resta les paupières closes, la tête renversée, comme se berçant sur cette colère qu'il soulevait. Puis, il se remit à parler d'une façon dogmatique, en phrases impérieuses comme des lois. L'État devait s'emparer de la banque et des assurances. Les héritages seraient abolis. On établirait un fonds social pour les travailleurs. Bien d'autres mesures étaient bonnes dans l'avenir. Celles-là, pour le moment, suffisaient. Et, revenant aux élections, il nous faut des citoyens purs, des hommes entièrement neufs. Quelqu'un se présente-t-il ? Frédéric se leva. Il y eut un bourdonnement d'approbation causé par ses amis. Mais Sénécal, prenant une figure à la Fouquier-Tinville, se mit à l'interroger sur ses noms, prénoms, antécédents, vie et mœurs. Frédéric lui répondait sommairement et se mordait les lèvres. Sénécal demanda si quelqu'un voyait un empêchement à cette candidature. « Non, non !» Mais lui, il en voyait. Tous se penchèrent et tendirent les oreilles. Le citoyen postulant n'avait pas livré une certaine somme promise pour une fondation démocratique, un journal. Depuis le 22 février, bien que suffisamment averti, il avait manqué au rendez-vous place du Panthéon. « Oh, je jure qu'il était aux Tuileries !» s'écria Dussardier. « Pouvez-vous jurer l'avoir vu au Panthéon ?» Dussardier baissa la tête. Frédéric se taisait. Ses amis scandalisés le regardaient avec inquiétude. « Au moins, reprit Sénécal, connaissez-vous un patriote qui nous réponde de vos principes ?»« Moi, dit Dussardier, oh, cela ne suffit pas. Un autre ?» Frédéric se tourna vers Pellerin. L'artiste lui répondit par une abondance de gestes qui signifiait « Ah, mon cher, ils m'ont repoussé, diable, que voulez-vous ?» Alors Frédéric poussa du coude Regimbard. « Oui, ah, c'est vrai, il est temps, j'y vais !» Et Regimbard enjamba l'estrade. Puis, montrant l'Espagnol qu'il avait suivi, « Permettez-moi, citoyen, de vous présenter un patriote de Barcelone. » Le patriote fit un grand salut, roula comme un automate ses yeux d'argent et, la main sur le cœur, « Ciudadanos, mucho aprecio el honor que me dispensáis, y si grande el vuestra bondad mayor es vuestro atención. »« Je réclame la parole !» cria Frédéric. « Desde que se proclamó la Constitución de Cádiz, ese pacto fundamental de las libertades españolas, hasta la última revolución, nuestra patria cuenta numerosos y heroicos mártires. » Frédéric, encore une fois, voulut se faire entendre. Mais, citoyen, l'Espagnol continuait. El martes próximo tendrá lugar en la iglesia de la Magdalena un servicio funèbre. Mais c'est absurde à la fin, personne ne comprend. Cette observation exaspéra la foule. À la porte, à la porte! Qui? Moi? Demanda Frédéric. Vous-même, dit majestueusement Sénécal. Sortez! Il se leva pour sortir, et la voix de l'Ibérien le poursuivait. Y todos los españoles desearían ver une de l'outitas las disputaciones de los clubs y de la misilia nacional. Una oración funèbre en honor de la libertad española y del mundo entero será pronunciada por un miembro del Cielo de París en la Sala Bonne Nouvelle. Honor al pueblo francés, que marmarió el primer pueblo del mundo si no fuese ciudadano de otra nación. ¡Aristo! Glapit un voyou en montrant le poing à Frédéric qui s'élançait dans la cour indignée. Il se reprocha son dévouement sans réfléchir que les accusations portées contre lui étaient justes après tout. Quelle fatale idée que cette candidature! Mais quels ânes, quels crétins! Il se comparait à ces hommes et soulageait avec leur sottise la blessure de son orgueil. Puis il éprouva le besoin de voir Rosanette. Après tant de laideur et d'emphase, sa gentille personne serait un délassement. Elle savait qu'il avait dû le soir se présenter dans un club. Cependant, lorsqu'il entra, elle ne lui fit pas même une question. Elle se tenait près du feu, décousant la doublure d'une robe. Un pareil ouvrage le surprit. « Tiens, qu'est-ce que tu fais ?»« Tu le vois, dit-elle sèchement, je raccommode mes hardes. C'est ta république. »« Pourquoi ma république ?» Ah, c'est la mienne, peut-être. » Et elle se mit à lui reprocher tout ce qui se passait en France depuis 2 mois, l'accusant d'avoir fait la révolution, d'être cause qu'on était ruiné, que les gens riches abandonnaient Paris et qu'elle mourrait plus tard à l'hôpital. Oh, tu en parles à ton aise, toi, avec tes rentes. Du reste, au train, on s'en va. Tu ne les auras pas longtemps, tes rentes. Cela se peut, dit Frédéric. Les plus dévoués sont toujours méconnus. Et si l'on avait pour soi sa conscience, les brutes avec qui l'on se compromet vous dégoûteraient de l'abnégation. Rosanette le regarda, les cils rapprochés. Hein, quoi? Quelle abnégation? Ah, monsieur n'a pas réussi, à ce qu'il paraît. Tant mieux. Ça t'apprendra à faire des dons patriotiques. Oh, ne mens pas. Je sais que tu leur as donné 300 francs, car elle se fait entretenir ta république. Eh bien, amuse-toi avec elle, mon bonhomme. » Sous cette avalanche de sottises, Frédéric passait de son autre désappointement à une déception plus lourde. Il s'était retiré au fond de la chambre. Elle vint à lui. « Nous voyons raisonner un peu. Dans un pays comme dans une maison, il faut un maître. Autrement, chacun fait danser l'anse du panier. D'abord, tout le monde sait que le Drurelin est couvert de dettes. Quant à Lamartine, comment veux-tu qu'un poète s'entende dans la politique? Ah, tu as beau hocher la tête et te croire plus d'esprit que les autres, c'est pourtant vrai. Mais tu ergotes toujours. On ne peut pas placer un mot avec toi. » Voilà par exemple Fournier-Fontaine, des magasins de Saint-Roch. Sais-tu de combien il manque? De 800 000 francs. Et Gomère, l'emballeur d'en face, un autre républicain, celui-là, il cassait les pincettes sur la tête de sa femme et il a bu tant d'absinthe qu'on va le mettre dans une maison de santé. Mais c'est comme ça qu'ils sont tous, les républicains. Une république, à 25%. Oh oui, vante-toi. Frédéric s'en alla. L'ineptie de cette fille, se dévoilant tout à coup dans un langage populacier, le dégoûtait. Il se sentit même un peu redevenu patriote. La mauvaise humeur de Rosanette ne fit que s'accroître. Mademoiselle Vatnaz l'irritait par son enthousiasme. Se croyant une mission, elle avait la rage de pérorer, de catéchiser, et plus forte que son amie dans ces matières, l'accablait d'arguments. Un jour, elle arriva tout indignée contre Ussonnet, qui venait de se permettre des polissonneries au club des femmes. Rosanette approuva cette conduite, déclarant même qu'elle prendrait des habits d'homme pour aller leur dire leurs faits à toutes et les fouetter. Frédéric entrait au même moment. Tu m'accompagneras, n'est-ce pas ? Et malgré sa présence, elles se chamaillèrent, l'une faisant la bourgeoise, l'autre la philosophe. Les femmes, selon Rosanette, étaient nées exclusivement pour l'amour ou pour élever des enfants, pour tenir un ménage. D'après Mademoiselle Vatnaz, la femme devait avoir sa place dans l'État. Autrefois, les Gauloises légiféraient, les Anglo-Saxonnes aussi, les épouses des Hurons faisaient partie du Conseil. L'œuvre civilisatrice était commune. Il fallait tout y concourir et substituer enfin à l'égoïsme la fraternité, à l'individualisme l'association et au morcellement la grande culture. Ah non, bon, tu te connais en culture à présent. Mais pourquoi pas ? D'ailleurs, il s'agit de l'humanité, de son avenir. Oh, mêle-toi du tien, ça me regarde. Et elle se fâchait. Frédéric s'interposa. La Vatnaz s'échauffait et arriva même à soutenir le communisme. Quelle bêtise, dit Rosanette. Est-ce que jamais ça pourra se faire ? L'autre cita en preuve les Esséniens, les frères Moraves, les jésuites du Paraguay, la famille des Pingons, près de Thiers en Auvergne, et comme elle gesticulait beaucoup, sa chaîne de montre se prit dans son paquet de breloques à un petit bouton d'or suspendu. Tout à coup, Rosanette pâlit extraordinairement. Mademoiselle Vatnaz continuait à dégager son bibelot. « Oh, ne te donne pas tant de mal, » dit Rosanette. « Maintenant, je connais tes opinions politiques. »« Quoi ?» reprit la Vatnaz, devenue rouge comme une vierge. « Oh, tu me comprends. » Frédéric ne comprenait pas. Entre elles, évidemment, il était survenu quelque chose de plus capital et de plus intime que le socialisme. « Et quand cela serait ?» répliqua la Vatnaz, se redressant intrépidement. « Oh, c'est un emprunt, ma chère, dette pour dette. Parbleu, je ne nie pas les miennes. Pour quelques 1 000 francs, belle histoire, j'emprunte au moins, je ne vole personne. » Mademoiselle Vatnaz s'efforça de rire. « Oh, je mettrai ma main au feu. Prends garde, elle est assez sèche pour brûler. » La vieille fille lui présenta sa main droite et la garda levée juste en face d'elle. « Mais il y a de tes amis qui la trouvent à leur convenance. Ah, des Andalous alors, comme Castagnette. Gueuse !» La maréchale fit un grand salut. « On n'est pas plus ravissante. » Mademoiselle Vatnaz ne répondit rien. Des gouttes de sueur parurent à ses tempes. Ses yeux se fixaient sur le tapis. Elle haletait. Enfin, elle gagna la porte et la faisant claquer vigoureusement. « Bonsoir, vous aurez de mes nouvelles. »« À l'avantage, » dit Rosanette. Sa contrainte l'aurait brisée. Elle tomba sur le divan toute tremblante, balbutiant des injures, versant des larmes. Était-ce cette menace de Lavatnas qui la tourmentait? Oh non, elle s'en moquait bien. À tout compter, l'autre lui devait de l'argent, peut-être. C'était le mouton d'or, un cadeau. Et au milieu de ses pleurs, le nom de Delmar lui échappa. Donc elle aimait le cabotin. Alors pourquoi m'a-t-elle pris? Se demanda Frédéric. D'où vient qu'il est revenu? Mais qui la force à me garder? Quel est le sens de tout cela? Les petits sanglots de Rosanette continuaient. Elle était toujours au bord du divan, étendue de côté, la joue droite sur ses deux mains, et semblait un être si délicat, inconscient et endolori, qu'il se rapprocha d'elle et la baisa au front, doucement. Alors elle lui fit des assurances de tendresse. Le prince venait de partir, il serait libre. Mais elle se trouvait pour le moment gênée. Tu l'as vu toi-même l'autre jour, quand j'utilisais mes vieilles doublures. Plus d'équipage à présent, et ce n'était pas tout. Le tapissier menaçait de reprendre les meubles de la chambre et du grand salon. Elle ne savait que faire. Frédéric eut envie de répondre « Ne t'inquiète pas, je paierai. » Mais la dame pouvait mentir. L'expérience l'avait instruit. Il se borna simplement à des consolations. Les craintes de Rosanette n'étaient pas vaines. Il fallut rendre les meubles et quitter le bel appartement de la rue Drouot. Elle en prit un autre sur le boulevard Poissonnière au 4e. Les curiosités de son ancien boudoir furent suffisantes pour donner aux trois pièces un air coquet. On eut des stores chinois, une tente sur la terrasse, dans le salon un tapis de hasard encore tout neuf, avec des poufs de soie rose. Frédéric avait contribué largement à ses acquisitions. Il éprouvait la joie d'un nouveau marié qui possède enfin une maison à lui, une femme à lui, et se plaisant là beaucoup, il venait y coucher presque tous les soirs. Un matin, comme il sortait de l'antichambre, il aperçut au 3e étage dans l'escalier le shako d'un garde national qui montait. Où allait-il donc? Frédéric attendit. L'homme montait toujours, la tête un peu baissée. Il leva les yeux. C'était le sieur Arnoux. Oh, la situation était claire. Ils rougirent en même temps, saisis par le même embarras. Arnoux, le premier, trouva moyen d'en sortir. « Elle va mieux, n'est-il pas vrai ?» Comme si Rosanette étant malade, il se fit présenter pour avoir de ses nouvelles. Frédéric profita de cette ouverture. « Oh oui, certainement. Sa bonne maladie, du moins. » Voulant faire entendre qu'on ne l'avait pas reçue. Puis ils restèrent face à face, irrésolus l'un et l'autre, et s'observant. C'était à qui des deux ne s'en irait pas. Arnoux, encore une fois, trancha la question. « Ah bon, je reviendrai plus tard. Où vouliez-vous aller? Je vous accompagne. » Et quand ils furent dans la rue, il causa aussi naturellement que d'habitude. Sans doute, il n'avait point le caractère jaloux, ou bien il était trop bonhomme pour se fâcher. D'ailleurs, la patrie le préoccupait. Maintenant, il ne quittait plus l'uniforme. Le 29 mars, il avait défendu les bureaux de la presse. Quand on envahit la chambre, il se signala par son courage et il fut du banquet offert à la garde nationale d'Amiens. Hussonnet, toujours de service avec lui, profitait plus que personne de sa gourde et de ses cigares. Mais irrévérencieux par nature, il se plaisait à le contredire, dénigrant le style peu correct des décrets, les conférences du Luxembourg, les Vésuviennes, les Tyroliens, tout, jusqu'aux chars de l'agriculture, traînés par des chevaux à la place de bœufs et escortés de jeunes filles laides. Arnoux, au contraire, défendait le pouvoir et révèle la fusion des partis. Cependant, ses affaires prenaient une tournure mauvaise. Il s'en inquiétait médiocrement. Les relations de Frédéric et de la maréchale ne l'avaient point attristé, car cette découverte l'autorisa, dans sa conscience, à supprimer la pension qu'il lui faisait depuis le départ du prince. Il allégua l'embarras des circonstances, gémit beaucoup, et Rosanette fut généreuse. Alors M. Arnoux se considéra comme l'amant de cœur, ce qui le rehaussait dans son estime et le rajeunit. Ne doutant pas que Frédéric ne payât la maréchale, il s'imaginait faire une bonne farce. Il arriva même à s'en cacher et lui laissait le champ libre quand ils se rencontraient. Ce partage blessait Frédéric. Et les politesses de son rival lui semblaient une gouaillerie trop prolongée. Mais, en se fâchant, il se fit ôter toute chance d'un retour vers l'autre, et puis c'était le seul moyen d'en entendre parler. Le marchand de faïence, suivant son usage ou par malice peut-être, la rappelait volontiers dans sa conversation, et lui demandait même pourquoi il ne venait plus la voir.